La séance d'aujourd'hui est donc consacrée à continuer notre investigation du transport dans les matériaux corrélés. Et la dernière fois, j'avais principalement soulevé un certain nombre de questions. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment est-ce qu'on peut répondre à ces questions dans un contexte simple où on peut obtenir des réponses essentiellement quantitatives. Mais avant de faire ça, je voudrais juste annoncer le fait que notre orateur de séminaire est donc Nigel Yussi, qui est ici, qui vient spécialement de Bristol aujourd'hui pour nous parler de transport dans les cuprates supraconducteurs, particulièrement, mais pas seulement, dans le régime surdopé. J'avais invité l'année dernière Nigel dans le cycle de cours sur le transport dans les cuprates, et malheureusement, il n'avait pas pu venir. Donc, ce n'était que partie remise. Et on est très content qu'il puisse faire un cours qui s'inscrit tout aussi bien dans le cours de cette année et est également une occasion pour reparler du transport dans les cuprates. Voilà. Donc, comme je le disais à l'instant, la dernière fois, j'avais soulevé un certain nombre de questions basées sur des considérations phénoménologiques. Que je vais rappeler un petit peu aujourd'hui. Je vais rappeler la liste de ces questions et je vais vous montrer comment on peut répondre à ces questions dans un contexte précis qui n'a pas forcément valeur de généralité complète, mais au moins comment on peut répondre à ces questions dans ce contexte-là. Avant de faire ça, je voudrais juste faire une petite annonce qui est qu'on a eu la grande tristesse à la fin de la semaine dernière d'apprendre le décès de Bernard Coquelin, que la plupart d'entre vous, je pense, connaissaient. Bernard était directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de physique des solides d'Orsay, mais il avait également reçu un certain nombre de distinctions internationales. J'en ai noté quelques-unes ici. Il est l'auteur de très nombreux travaux sur les systèmes Kondo, en particulier d'un célèbre article avec Schrieffer, qui a donné lieu à ce qu'on a appelé le modèle de Coquelin-Schrieffer, dont j'ai parlé dans la première moitié de ses cours. Donc, je voulais rappeler la mémoire de Bernard à l'occasion de cet avant-dernier cours de cette session. Bien, alors donc, une des choses que j'avais soulignées la dernière fois sur un certain nombre de matériaux, mais là, je remontre juste le cas des ruthénates, c'est le fait que dans beaucoup de ces systèmes corrélés, on a des résistivités. Là, il s'agit de la résistivité dans le plan AB, des ruthénates de 1,4, on a des résistivités qui sont métalliques jusqu'à des températures extrêmement élevées et qui traversent, apparemment sans s'en soucier particulièrement, la limite de Joffre-Egelmott. Donc, dépendamment de la manière dont on la définit précisément, ici ce serait KFL d'ordre 1, ici ce serait KFL d'ordre 2π, mais quelle que soit la manière dont on la définit précisément au facteur 2π près, vous voyez que la résistivité traverse ce critère, qui n'est donc en aucun cas une limite pour la résistivité, d'une part, et d'autre part, ça c'est la première observation, et la deuxième observation, c'est que clairement, la température caractéristique dans laquelle on a un régime de liquide de Fermi, et en l'occurrence dans ce strontium 2 ruthénium 4, on a un régime liquide de Fermi dans le régime de basse température ici, quand on zoome sur cette région, eh bien cette température caractéristique du liquide de Fermi n'a absolument rien à voir avec celle où la limite de Joffre-Egelmott est atteinte. Elle est beaucoup, beaucoup plus basse. En l'occurrence, on a des lois en T2 pour la résistivité dans ce matériau, jusqu'à des températures de l'ordre de 20 Kelvin à peu près, alors qu'ici, vous voyez, la limite de Mott-Joffre-Egel, définie avec KFL égale 1, est atteinte seulement autour de 700 K. Vous voyez ces valeurs typiques de l'ordre d'une fraction, disons, de milliohm centimètre, qui est typique de la limite de Mott-Joffre-Egel. Donc ça m'avait amené à poser un certain nombre de questions que je rappelle ici. Pourquoi est-ce que la température caractéristique où on a un bon liquide de Fermi, pourquoi cette température caractéristique est-elle si basse? Et qu'est-ce qui la fixe? Qu'est-ce qui se passe exactement pour les quasi-particules de Landau quand on traverse cette échelle de température? Et surtout, et c'est en fait l'objet essentiel du cours d'aujourd'hui, quelles sont les entités qui sont responsables du transport métallique dans cette très large plage de température entre T Fermi liquide et T Mott-Joffre-Egel. Donc, il doit bien quand même y avoir des choses qui transportent le courant. Est-ce que ces entités ont une signature spectroscopique? Est-ce qu'on pourrait les voir en Marpes, par exemple? Ou est-ce qu'on doit déjà penser au système comme étant complètement incohérent dès qu'on est au-dessus de T liquide de Fermi? Donc, voilà un petit peu la problématique du cours d'aujourd'hui. Et associé à ça, il y a des questions qui sont peut-être un petit peu plus théoriques. Lorsque je n'ai plus de quasi-particules au sens de Landau, est-ce que néanmoins il reste une description du transport à la Drude? Donc est-ce que Drude est plus robuste que Landau d'une certaine mesure, dans une certaine mesure? C'est ça la question. Bon, alors, j'avais donné un certain nombre de raisons pour lesquelles je pensais que ces questions étaient d'actualité. On a déjà vu dans le séminaire de la dernière fois, et je pense que c'est une question qu'on rediscutera dans le séminaire d'aujourd'hui, que il y a une prise de conscience qu'après tout, il y a probablement un régime avec des quasi-particules relativement bien définies dans les régions nodales des cuprates. Et donc s'intéresser à ces régimes qui sont, je dirais, entre des régimes d'entre-deux, entre le liquide de Fermi très cohérent et des régimes complètement incohérents, à mon avis, est d'actualité dans le contexte des cuprates également. Tout ça a évidemment été bien renforcé par la découverte des oscillations quantiques dans les cuprates. Et ceci, à mon avis, réoriente un petit peu les préoccupations théoriques. Depuis la quête du Graal d'un point fixe non liquide de Fermi stable à température nulle, vers la compréhension des régimes de crossover entre un régime de liquide de Fermi à basse température vers une incohérence qui se développe graduellement dans le système. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment on peut répondre à cette question dans un contexte très, très spécifique. Et je ne voudrais pas que vous pensiez que les réponses du cours d'aujourd'hui sont complètement générales et vont s'appliquer à tous les systèmes et que c'est la vérité révélée. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est un cas, un type de calcul, où on peut apporter des réponses précises aux questions que je viens de soulever. Et la généralité de ces conclusions est à discuter selon les matériaux et selon les cas, en particulier en relation avec une forte différenciation dans l'espace des impulsions ou pas. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est un cours qui a un peu plus la forme d'un séminaire, peut-être un peu plus spécialisé que d'habitude. Ce sont des résultats récents, qui ne sont même pas encore publiés. L'un des acteurs principaux de cette aventure, c'est Xiaoyu Deng, qui est assis quelque part dans l'audience, qui est postdoc, voilà là, qui est un postdoc dans notre équipe, et qui, avec Yernei Mravier et avec Rok Zitko à l'Institut Joseph Stéphane de Ljubljana, ont regardé le problème du transport, mais également de l'optique et d'autres quantités spectroscopiques, dans un isolant de mode dopé, tout simplement dans le contexte de la théorie de champ moyen dynamique à un site. Donc, d'une certaine manière, ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est de la vieille histoire. C'est quelque chose qui aurait pu être fait il y a 15 ans. C'est quelque chose qui aurait pu être fait il y a 15 ans, en principe. Donc, c'est une vieille histoire qui aurait pu être faite il y a 15 ou 20 ans, en principe, mais en pratique, ce n'est pas si clair que ça aurait pu être fait il y a 15 ans, dans la mesure où ça demande des méthodes de solution des équations de la théorie de champ moyen dynamique, particulièrement précise et raffinée. Alors pourquoi? Parce que comme vous allez le voir dans la suite, quand on s'intéresse au transport, et les gens qui font des expériences sur le transport le savent bien, mais les théoriciens comme nous, quelquefois, en perdent la notion, eh bien, on s'intéresse à des effets de très, 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 très basse énergie, au moins quand on est dans le régime de basse température. Et donc, il faut une précision remarquable sur la spectroscopie de basse énergie, la mesure d'une quantité très délicate qui est le temps de scattering à basse température et à basse énergie pour être capable de dire quoi que ce soit de fiable dans les calculs théoriques. Et donc clairement, les méthodes qu'on doit utiliser pour résoudre les équations de champ moyen dynamique dans ce contexte sont particulièrement exigeantes et en pratique, ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait faire il y a 15 ans. Donc, quels sont les progrès? Ce n'est pas un cours de technique, ça sera le seul transparent où je vais parler, où je mentionne brièvement les méthodes numériques. Quelles sont les techniques qui ont permis des avancées significatives sur ce sujet? Eh bien, d'une part, c'est les méthodes de groupe de normalisation numérique à la Wilson, dans des versions, disons, state of the art, les plus raffinées actuelles. Et c'est sur ce point-là qu'on est redevable à Roxitco dans le cadre de cette collaboration. Et d'autre part, les méthodes de Monte Carlo en temps continu, dont certains des inventeurs sont dans la salle, et en particulier l'algorithme qui a été développé par Philippe Werner et collaborateurs, l'algorithme de Monte Carlo en temps continu dans le développement en hybridisation, qui permet de résoudre les équations, le modèle d'impureté qui est à la base de la théorie du champ moyen dynamique, de manière très précise, de manière si précise, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant pour les gens qui font des calculs Monte Carlo, de manière si précise qu'on peut faire les continuations analytiques sur l'axe réel, puisqu'évidemment le point essentiel c'est qu'on doit travailler sur l'axe des fréquences réelles pour pouvoir dire des choses sur le transport. On peut faire ces continuations analytiques par des méthodes d'approximant de Padé. Alors, pour ceux à qui ça ne dit rien, vous pouvez oublier, mais pour ceux à qui ça dit quelque chose, c'est pratiquement unique dans le Monte Carlo qu'on puisse faire des continuations analytiques en utilisant des approximants de Padé. Et c'est vraiment quelque chose qui a été développé en particulier par Michel Ferrero dans ce contexte, qui permet d'obtenir des résultats très très précis. Et je vais vous montrer une ou deux courbes plus loin dans ce cours qui comparent ces méthodes. Et vous verrez que ça se passe très très bien. Bon, alors, pour revenir un tout petit peu sur le formalisme théorique de la dernière fois, tout ce que je vais vous raconter est fait dans le cadre de la formule de Kubo pour la conductivité, que j'avais établie la dernière fois, qui relie la conductivité ici écrite, bien sûr, à moment nul et en fonction de la fréquence, à une intégrale, une convolution de deux fonctions spectrales. Donc, c'est une limite dans laquelle toutes les corrections de vertex sont négligées, hein, c'est la bulle, simplement. Et on a vu la dernière fois que, dans le cadre de DMFT in-situ, cette approximation est exacte. Donc, on ne viole aucune règle de somme si on fait ça, tant qu'on est cohérent de manière interne, c'est-à-dire qu'on manipule bien des self-énergies qui ne dépendent que de la fréquence. Quand on commence à inclure la dépendance en impulsion dans la self-énergie, comme par exemple dans le cas des cuprates, ça sera important, eh bien il est incorrect et souvent faux de se limiter au calcul de la conductivité en négligeant les corrections de vertex. Mais tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui est basé sur cette convolution de deux fonctions spectrales avec une fonction de transport ici, hein, qui fait intervenir les vitesses, on avait vu ça la dernière fois. Et tout ce qui compte, finalement, c'est la dépendance en énergie de cette fonction de transport. Donc voilà le formalisme sur lequel l'ensemble de ces choses est basé. Et donc vous voyez que pour calculer le transport, pour calculer l'optique, ce qu'il faut, c'est calculer la self-énergie du problème, donc une quantité à une particule, mais avec une très bonne précision sur l'axe réel des fréquences. Donc voilà le problème tel qu'il est posé et tel que je vais le décrire dans la suite. Bon, alors, des questions d'unité. Tout ce que je vais vous raconter, dans tout ce que je vais vous raconter dans la suite, les unités d'énergie, de température, de fréquence sont toujours exprimées en termes de la demi-largeur de bande. Et quand je dis ça, je pense à h bar égale kb égale 1, évidemment. Donc, tout est exprimé en unité de la demi-largeur de bande. Et typiquement, vous devez penser à une demi-largeur de bande, disons, un électron-volt, quelque chose comme ça, hein, typiquement. Donc, 12 000 Kelvin. Hein. Donc ça c'est une chose. Quelquefois j'utiliserai ce symbole bizarre bêta qui est tout simplement l'inverse de la température, hein, bêta dans les notations habituelles de Boltzmann, normalisé toujours à la demi-largeur de bande. Donc quand vous voyez bêta égale 400, ça veut dire que kT c'est 1/400 de la demi-largeur de bande, donc quelque chose qui va être de l'ordre de 30 K, quelque chose comme ça. Bien, les résistivités que je vais présenter sont normalisées à la valeur de Mott-Ioffe-Regel correspondant à KFL égale 1. Et j'avais expliqué la dernière fois que dans un système quasi 2D, eh bien, la valeur de Mott-Ioffe-Regel correspondant à KFL égale 1 s'exprime naturellement en fonction du rapport de la fonction de transport à l'énergie de Fermi divisé par l'énergie de Fermi elle-même. Et donc, c'est en fonction de cette unité-là, ou plutôt de l'inverse de cette conductivité, que sont normalisées toutes mes résistivités dans la suite de ce que je vais vous montrer. Donc voilà qui fixe, disons, les unités. Hein, et la plupart des calculs que je vais vous montrer sont faits dans une une valeur de l'interaction qui est deux fois la largeur de bande. Donc c'est quelque chose qui est plus grand que la valeur critique de la transition de Mott. Donc on est bien en train de doper un isolant de Mott. Donc voilà l'esprit général de ces calculs. Bon. Alors, ce que je vais vous montrer ici, je vais commencer par vous donner un peu un panorama de quelques quantités physiques, en commençant par la résistivité, et ensuite je vais vous montrer comment on peut comprendre les différents régimes. Donc je vais d'abord vous montrer quelques courbes, et ensuite je vais vous montrer comment on peut avancer dans la compréhension de ces différents régimes. Alors, le premier résultat que je vais vous montrer, c'est la résistivité en fonction de la température. Donc vous voyez ça, c'est sur une très grande échelle de température, puisque le 1 qui est ici, vous devez y penser comme 1 électronvolt, hein, 12 000 Kelvin. Donc là, on va à très 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 haute température. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Toujours en unité de Rho-Mott, eh bien vous voyez, pour différents dopages, donc delta c'est le dopage, depuis 10% jusqu'à 30%, vous voyez une résistivité qui est métallique tout le long. Hein, et clairement, pour voir ce qui se passe ici, il va falloir faire un zoom sur les régions de basse température. Donc, la première constatation de ces courbes, c'est qu'il n'y a pratiquement jamais, on peut discuter ces points-là, mais il n'y a en gros pas de saturation de la résistivité. On a une résistivité métallique qui gentiment traverse la limite de Mott, qui est ici, avec un transport métallique jusqu'à très haute température, dans le sens où dρdt est positif. La seconde constatation que vous pouvez faire, c'est que pour un dopage intermédiaire, disons 20%, regardez cette courbe violette ici, eh bien, vous voyez que la température à laquelle on traverse la limite de Mott-Ioffe-Regel, c'est une température qui est immense, qui est de l'ordre de 0,4 fois la demi-largeur de bande. Donc c'est une très très haute température. Clairement, dans ce régime-là, on n'est pas du tout dans un régime liquide de Fermi. Le régime liquide de Fermi, il est caché ici. D'accord ? Donc ça, c'est la deuxième constatation. Donc pour voir un petit peu ce qui se passe, je fais un petit zoom. Donc vous voyez, c'est les mêmes courbes, hein. Et maintenant, l'échelle de température est réduite d'un facteur 3. Donc, je regarde ces courbes, maintenant jusqu'à 0,30 fois D. Et on commence à voir un petit peu plus de choses. Vous voyez qu'ici, il pourrait y avoir un régime en T2. Je vais vous montrer qu'il y a effectivement un très beau régime en T2, mais seulement à des températures très faibles. Hein, donc ça, c'est la première constatation. Puis, il y a un certain nombre de crossovers. Et finalement, on atteint un régime où la résistivité est essentiellement linéaire en température, tout en étant encore plus faible que la limite de Mott. Hein. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je veux insister. Vous vous souvenez de l'article d'Emery et Kivelson, dont j'avais parlé la dernière fois, qui essaye de dire que si on a un système qui viole la limite de Mott, eh bien, on a nécessairement un non-liquide de Fermi à basse température. Donc ça, c'est pas quelque chose de vrai, c'est pas du tout vrai. Mais en plus, c'est pas parce qu'on a des résistivités essentiellement linéaires, disons même inférieures à la limite de Mott-Ioffe-Regel, qu'on va pas éventuellement fabriquer un liquide de Fermi à basse température. Donc vous voyez que ces courbes-là, elles posent clairement la question de comprendre comment on peut avoir un immense régime de transport ici, qui est métallique, avec des résistivités qui ne sont pas en T2, et qui néanmoins sont plus faibles que la limite de Mott-Ioffe-Regel. Ce qui est quelque chose qui est vu dans un très grand nombre de systèmes corrélés. Alors on peut encore zoomer. Donc cette fois, j'ai zoomé de deux manières. D'une part, en regardant vraiment le régime de très très basse température ici, et d'autre part, en divisant l'échelle des températures par le dopage. Donc ce que je veux vous montrer, là, c'est qu'il y a une échelle d'énergie ou une échelle de température caractéristique. En fait, la plupart des échelles caractéristiques dans ce problème sont multipliés par, sont proportionnels au dopage. Donc maintenant, on commence à voir le terme en T2. Je ne vous montre pas un fit précis, on aura d'autres occasions dans la suite. Mais enfin, ça, c'est bien du T2. Hein. Et vous voyez que le T2, il subsiste seulement jusqu'à des températures qui sont de l'ordre de 0,05 ou 0,10 fois delta fois D. Hein. Donc ce sont des échelles très faibles. OK. Donc voilà un petit peu comment les choses se passent. Alors, je vais encore vous montrer quelques autres quantités, et puis dans la suite du cours, on va entrer dans les détails de ces quantités, essayer de les comprendre mieux. Donc, la première chose qu'on apprend finalement en regardant tout ça, c'est que quand on regarde juste une résistivité, ben, finalement, on n'y comprend pas grand-chose. Ce n'est pas très facile de juste regarder une résistivité. On peut faire beaucoup d'analyses, on peut en extraire beaucoup, beaucoup d'informations intéressantes, Mais c'est encore bien plus intéressant de corréler le calcul ou la mesure de la résistivité à d'autres observables, en particulier des observables spectroscopiques, comme l'ARPES ou l'optique. Et donc c'est ça que je vais vous montrer. Donc voilà par exemple ici ce qui se passe maintenant à dopage fixé, 20%, quand on change la température pour une quantité qui est tout simplement la densité d'état total des états excités. Donc la fonction spectrale sommée sur les impulsions, donc pas résolue en K. Je vais vous montrer par la suite ce qui se passe quand on regarde les choses résolues en K. Et ces quatre températures que vous voyez ici, donc 1/400 de la demi-largeur de bande, 1/20, 1/5 et 1, ce qui est une température faramineuse, hein, eh bien vous voyez ici que ces quatre températures ne sont pas complètement choisies au hasard. En fait, elles correspondent à quatre températures caractéristiques de différents régimes qui vont apparaître dans la suite. Cette température-là est très basse. Hein, elle est de l'ordre de, disons, 30 K, typiquement. Hein, enfin, très basse. Ça dépend par quel standard, mais disons, c'est de l'ordre de 20-30 Kelvin, typiquement. Et donc, vous voyez que, ici, on va être dans le régime liquide de Fermi du problème, ou assez bien. Et clairement, cette densité d'état a la forme tout à fait caractéristique d'un isolant de mode dopé dans ses approches de type champ moyen dynamique. Vous avez ici, donc regardez la courbe violette, vous avez ici une bande de Hubbard inférieure, vous avez ici une bande de Hubbard supérieure, vous voyez, séparée en gros par 4, ce qui est ce que vous vous attendez pour E égale 4, et puis vous avez ici des états qui sont au niveau de Fermi, le niveau de Fermi est à 0, des états autour du niveau de Fermi, qui clairement doivent être des états de quasi-particules. Ici, on regarde la densité d'état totale, donc c'est juste une densité d'état de ces quasi-particules. Hein. Et comme on est en train de doper l'isolant de Mott en trou, eh bien, l'énergie de Fermi se trouve au sommet, un peu au-dessus, de la bande de Hubbard inférieure. Si vous dopiez en électrons, votre niveau de Fermi serait là. D'accord ? Alors, si vous regardez la forme de cette courbe ici, vous voyez qu'elle a une certaine asymétrie, hein. Clairement, il y a une espèce d'épaulement ici, et ceci vous fait déjà penser qu'en fait, la manière. En fait, il y a plusieurs types d'états dans ces états de quasi-particules, et je vais y revenir dans la suite. Il y a des quasi-particules de Landau qui disparaissent très vite en température, et puis il y a des objets qui sont beaucoup plus robustes. Alors, quand vous regardez l'évolution en température, donc vous voyez ici la courbe verte, c'est bêta égale 20, donc on a énormément chauffé le système par un facteur 20, d'accord ? Donc on serait maintenant plutôt à 500 Kelvin, d'accord ? Eh bien, vous voyez ce qui se passe. Clairement, on a perdu un peu de quasi-particules. Hein, vous voyez qu'ici, les quasi-particules qui étaient les plus proches du niveau de Fermi, très près de oméga égale 0, qui donnait cette partie très aiguë du pic ici, ont disparu. Mais il reste quand même un très bon pic de quasi-particules dans cette densité d'état. Donc, clairement, à cette température-là, hein, température donc 0,05, on n'est pas du tout dans un régime liquide de Fermi. On est déjà bien au-dessus du régime liquide de Fermi, mais en dessous du régime de la valeur de Mott-Ioffe-Regel. On est dans ce régime intermédiaire où on a du transport métallique, mais non Landau, disons. Et vous voyez que dans ce régime, il serait complètement faux de dire que les états de quasi-particules ont disparu. Les états de quasi-particules sont toujours là. Il y a juste certaines quasi-particules très fragiles ici, près du niveau de Fermi, qui ont disparu. Alors ensuite, on chauffe encore, on arrive à des températures colossales, et vous voyez que finalement, pour des températures qui sont une fraction de la largeur de bande, eh bien, on tue complètement le spectre de quasi-particules. Vous voyez, la courbe bleue est l'exemple extrême, très haute température, et on trouve un système qui a juste une bande de Hubbard supérieure, une bande de Hubbard inférieure, et le niveau de Fermi se trouve maintenant quelque part au sommet de cette bande de Hubbard inférieure. Donc, il y a déjà, vous voyez, en gros, trois régimes. Il y a un régime loin dans le liquide de Fermi, bien dans le liquide de Fermi ici, un régime clairement hors du liquide de Fermi, mais où il reste des excitations de basse énergie, et ça va être un thème récurrent de ce cours, et puis un régime très haute température, où on est très incohérent, avec juste une bande de Hubbard inférieure et une bande de Hubbard supérieure. Et vous voyez qu'il y a une très riche action dans cette densité d'état, en fonction de la température. Si vous regardez une quantité plus détaillée, qui est la self-énergie, donc le taux de scattering, si vous voulez, en fonction de la fréquence, qui est représentée ici, ça c'est la partie imaginaire de la self-énergie en fonction de la fréquence, eh bien, vous voyez qu'il y a une énorme action dans cette quantité, à la fois en fonction de la fréquence et en fonction de la température. Et regardez ici ce qui se passe pour la courbe violette. La courbe violette, c'est celle de basse température dans le régime de, de liquide de Fermi. Vous voyez qu'ici, c'est le régime en oméga 2 du liquide de Fermi. C'est là, comme je vais le souligner par la suite, que vit la théorie de Landau, dans cette toute petite région ici. D'accord ? Vous voyez que dès qu'on s'éloigne en fréquence, même à basse température, de ce régime liquide de Fermi, eh bien, il y a des choses intéressantes qui se passent en fonction de l'énergie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous chauffez le système, vous voyez clairement que le scattering rate augmente rapidement. Hein. Pour nous, théoriciens, im sigma est négatif. Le scattering rate, c'est moins im sigma, juste au passage. Vous voyez que le scattering rate augmente. Les quasi-particules de Landau sont détruites. Mais quand même, cette quantité, dans une certaine fenêtre d'énergie, sature autour d'une valeur qui, vous voyez ici, pour ce dopage, est autour de 0,2. Hein. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que KT, mais beaucoup plus petit que la largeur de bande. Et donc, on a des quasi-particules qui ont un temps de une scattering rate, un taux de collision, qui est clairement plutôt incohérent, mais quand même suffisamment petit pour que le pic de quasi-particules soit bien défini dans les fonctions spectrales. Bon, alors, je vais maintenant entrer dans ces différents régimes. Ça, c'était juste pour vous donner une espèce de panorama. Je vais entrer dans ces différents régimes pour les comprendre plus en détail. OK. Donc, dans cette théorie simplissime, hein, qui est d'MFT un seul site, le liquide de Fermi est bien là, mais il est décrit dans une approche purement locale. C'est-à-dire que toutes les quantités à une particule, enfin toute la self-énergie à une particule, ne dépend que de la fréquence et pas de l'impulsion. Les propriétés de quasi-particules sont complètement uniformes sur la surface de Fermi. Encore une fois, cette approche a de nombreuses limitations, surtout quand on commence à aller vers les cuprates, mais au moins elle permet de comprendre ce qui se passe dans un cas précis. Donc, la forme de ce liquide de Fermi local, eh bien, c'est les formes habituelles de la théorie de Landau des liquides de Fermi. Vous avez la partie réelle de la self-énergie qui est constituée de deux termes, une partie constante à basse fréquence et puis une partie linéaire en fréquence. Ce coefficient ici, on l'a rencontré dans plusieurs cours précédents, définit le poids spectral des quasi-particules. Et puis vous avez ici une partie imaginaire de la self-énergie, donc qui est ce taux de scattering dont je viens de parler, qui est à basse fréquence. Donc encore une fois, on parle maintenant de cette petite région ici, hein, se comporte comme oméga carré plus pi t carré. Si j'avais plus de temps, je vous expliquerais exactement pourquoi c'est pi t qui apparaît, mais ça provient de lois assez générales en fait, fois un coefficient. J'ai normalisé tout à mon unité habituelle d'énergie. On verra que ce coefficient, en fait, ici, varie comme 1 sur le poids des quasi-particules au carré quand on se rapproche de la transition de mode. Hein, donc on a un système qui est en fait caractérisé par une seule échelle d'énergie, qui est le Z, le poids de quasi-particules fois une largeur de bande. Et cette quantité ici est contrainte par le théorème de Luttinger, qui me dit que j'ai une grande surface de Fermi qui a pour volume 1 moins delta, hein, et ceci m'impose que cette quantité est reliée à l'énergie de Fermi du système donnée juste par le comptage du nombre de porteurs, un modèle. Bon, donc, si je regarde cette expression et je regarde où elle s'applique, eh bien, comme j'insistais à l'instant, c'est dans cette région-là que cette expression s'applique. Donc, vous voyez qu'il y a énormément d'actions en dehors de cette fenêtre d'énergie. C'est uniquement dans cette région que la théorie de Landau s'applique. Et on va maintenant regarder, en comparant ces résultats à cette forme, on va essayer de quantifier l'échelle de température au-dessus de laquelle on perd le comportement liquide de Fermi. Alors, je vais vous montrer ça de plusieurs manières. Il y a plusieurs manières de faire ça qui donnent toutes le même résultat, c'est bien agréable. Donc, une manière de faire ça, c'est précisément de faire ce scaling plot où on divise la partie imaginaire de sigma par T2 et on représente tout en fonction d'oméga sur T. Hein, donc vous voyez que cette expression, elle a des propriétés de scaling. Si vous divisez ça par T2, eh bien ça devrait être une fonction bien précise, x2 plus pi carré d'oméga sur T. Et les courbes que je vous montre ici sont des zooms sur cette petite région. Donc voilà ce zoom, d'accord ? Et vous voyez que quand je vais à très basse température, hein, 1/400 de la demi-largeur de bande, eh bien j'ai quelque chose qui scale assez magnifiquement sur cette forme, x2 plus pi carré. D'accord ? Donc vous voyez un bon collapse des données, hein, dans un régime de fréquence pour ces courbes de basse température sur la courbe auquel vous vous attendez. Hein. Mais regardez ici l'échelle d'énergie. Hein. On est sur des échelles d'énergie qui sont de l'ordre de quelques fois la température. Ici, j'ai normalisé les choses par T. D'accord ? Donc c'est une toute petite échelle d'énergie. Alors ce que vous voyez très clairement aussi, c'est que quand je commence à chauffer le système, déjà à bêta égale 100, ce qui veut dire la demi-largeur de bande divisée par 100, eh bien clairement on commence à dévier du liquide de Fermi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on dévie du liquide de Fermi de manière beaucoup plus forte pour les excitations de type particule, donc pour oméga positif, que pour les excitations de type trou, pour oméga négatif. Vous voyez que pour toutes ces températures, eh bien finalement, c'est toutes ces températures-là, hein, jusqu'à même bêta égale 50, du côté des excitations de type trou, on est à peu près sur la courbe de liquide de Fermi. En revanche, ici, il se développe une asymétrie particule-trou qui est très importante du côté des excitations de type particule, avec très rapidement une échelle caractéristique d'énergie où on dévie de la forme liquide de Fermi du côté particule. Donc il y a deux échelles d'énergie, une échelle d'énergie du côté trou, qui est beaucoup plus grande que l'échelle d'énergie du côté particule, hein, pour la déviation du liquide de Fermi. Et ce qui contrôle l'échelle de température au-delà duquel on perd le T2, dans la résistivité par exemple, c'est clairement l'échelle petite, hein, c'est la plus petite des deux échelles, bien entendu, et c'est clairement l'échelle du côté des excitations de type particule, qui malheureusement, pour ces isolants de mode dopé en trou, constitue précisément la région qu'on ne peut pas avoir en ARPES. Bon. Donc ça, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire pour identifier cette température caractéristique, eh bien, c'est d'essayer un autre type de plot. Ici, j'ai représenté la partie imaginaire de sigma en fonction de T normalisé par le dopage. Donc, vous voyez, il y a un très beau collapse de ces différents, une très beau accumulation de ces différentes courbes les unes sur les autres. À part que ça, c'est les résultats de groupes de normalisation numérique. Et pour les experts, vous aurez tout de suite remarqué qu'il y a un léger petit problème ici dans les résultats, puisque cette partie imaginaire de sigma devient positive. Problème qui n'existait pas là. Hein. Ces résultats sont des résultats de Monte Carlo prolongés par Padé. Ces résultats sont des résultats de groupes de normalisation numérique. Alors, est-ce que ça veut dire que ces deux méthodes donnent des résultats complètement différents ? Alors, voilà la réponse à cette question. Donc, je vais revenir sur tout ça. Mais je vais d'abord vous montrer... Oups, où est-ce que j'ai mis ça ? J'ai mis ça quelque part. Puisque j'ai soulevé la question, je voudrais... Oups, je pensais que j'avais mis quelque chose là-dessus. C'est très embarrassant. Malheureusement, non. Bon, je pensais que j'avais une courbe qui montrait ça. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que le PADE de ces résultats Monte Carlo et les résultats de groupe de normalisation numérique sont parfaitement l'un sur l'autre, sauf si vous regardez le groupe de normalisation numérique à très 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 basse fréquence, où il y a des difficultés dans les méthodes de groupe de normalisation qui empêchent d'avoir une très bonne précision sur les régimes très basse fréquence de ce taux de diffusion. Bon, je pourrais retrouver le slide tout à l'heure pour montrer ça précisément. Bon. Donc ça, c'est une manière de faire qui vous montre clairement, hormis cette difficulté technique, qui vous montre clairement qu'il y a une échelle caractéristique de température qui est de l'ordre de 0,05 fois delta D. Donc la morale de tout ça, c'est que l'échelle caractéristique du liquide de Fermi dans ce calcul est une échelle de caractéristique extrêmement faible, qui n'a rien à voir, tout au moins sa valeur numérique, n'a rien à voir avec l'échelle de Brinkmann-Reiss. Hein? Si vous faites une approche de type boson-esclave très simple, où les quasi-particules ont une durée de vie infinie, il y a une échelle d'énergie qui apparaît, qui est la renormalisation de l'énergie cinétique par le dopage, une échelle d'énergie qui est de l'ordre le dopage fois la largeur de bande. Cette échelle d'énergie, elle est manifestement très grande. Le dopage par la largeur de bande, c'est quelque chose qui peut être plusieurs milliers de Kelvin, néanmoins. Cette échelle d'énergie n'a rien à voir avec l'échelle de température en dessous de laquelle le liquide de Fermi s'applique. L'échelle en dessous de laquelle le liquide de Fermi s'applique est aussi proportionnelle au dopage, mais avec un facteur numérique devant, pour lequel on n'a pas une compréhension analytique très précise, peut-être c'est juste 1 sur 4 pi carré, hein, c'est fort possible, mais n'empêche que, du point de vue des nombres, vous voyez que ce facteur est très petit, il est de l'ordre de quelques fois 10⁻², et ceci permet parfaitement de rendre compte que dans tous ces systèmes fortement corrélés, comme les rutanates que je vous ai montré tout à l'heure, ou d'autres systèmes, eh bien, l'échelle du liquide de Fermi soit quelques dizaines de Kelvin. Hein, puisque clairement, ici, si vous avez 12 000 cas hein, pour D, que vous avez un dopage de 10% et que vous avez encore un facteur 5 10-2, ça vous amène précisément dans ce régime de quelques dizaines de Kelvin. Hein. Donc, clairement, ces calculs montrent de manière évidente que l'échelle répond clairement à la première question. La température du liquide de Fermi est une échelle qui est numériquement beaucoup, beaucoup plus petite, par, je dirais, deux ordres de grandeur, par rapport à l'échelle de Brinkman-Rice. C'est une échelle qui est proportionnelle au dopage, clairement, mais qui est beaucoup plus petite que l'échelle de Brinkman-Rice. Bon, alors, maintenant, on peut aller plus loin. Et ce qu'on peut faire, c'est essayer de répondre à la deuxième question que j'avais posée. Quelle est la valeur de la résistivité quand j'atteins cette échelle T liquide de Fermi? Est-ce que cette résistivité atteint la limite de Mott à ce moment-là ou non? Évidemment, non. La réponse est non. Est-ce qu'on peut voir ça dans ces calculs? Alors, pour ça, c'est assez simple. On peut prendre la formule de Kubo que j'avais tout à l'heure et faire un développement basse température de cette formule de Kubo en utilisant maintenant notre connaissance qu'on vient d'établir de dépendance en fréquence et en température du taux de diffusion. Hein. Donc vous utilisez la loi qui est ici et vous faites un développement basse température de la formule qui était là, c'est-à-dire de la formule de Kubo, que je vais vous retrouver tout de suite, qui était quelque part là. Voilà. Vous faites un développement basse température de cette équation. Alors, je vais faire ça au tableau, en quelques minutes, pour vous montrer comment ça marche. Vous arrivez à voir comme ça ? Oui. OK. Donc, si j'arrive à trouver une craie, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, la première chose, c'est qu'on va faire oméga égale 0 pour calculer la conductivité DC. D'accord ? Donc vous voyez que si vous utilisez ça, quand oméga égale 0, les facteurs de Fermi me donnent une dérivée. D'accord ? Donc ici, je vais avoir 2 pi e carré sur h bar, une intégrale sur la fréquence, cette fois d'une dérivée de la fonction de Fermi, fois cette intégrale sur la fonction de transport. Et cette fois, ce n'est plus une convolution, mais c'est le carré de la fonction spectrale. Apparaît. Bon, alors, clairement ici, ce facteur limite l'intégration en fréquence, disons opérationnellement, sur oméga plus petit, disons en gros que 5kT. Hein. Donc, le régime d'énergie qui contribue au transport est un régime qui est limité par la température à peu près de cette manière. Et vous allez voir ce que ça veut dire sur les fonctions spectrales quand on change la température. Donc, ça, c'est la première observation. Donc, comme on est limité par ce régime, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser pour A de epsilon et de oméga la forme suivante. Donc, ça, c'est 1 sur pi fois quelque chose que j'appelle gamma, qui est tout simplement, gamma, c'est tout simplement moins la partie imaginaire de la self, fois ici, epsilon, qui est l'énergie, c'est epsilon k, l'énergie à laquelle je calcule ma fonction spectrale, moins quelque chose que j'appelle epsilon étoile, qui est une fonction de oméga et de t, plus gamma 2. Qu'est-ce que c'est que epsilon étoile oméga et t? Eh bien, c'est tout simplement oméga plus mu, en fait, c'est oméga sur z plus mu moins sigma prime de 0. Et on a vu tout à l'heure que cette quantité, dans la limite de basse température et de basse fréquence, à cause du théorème de Luttinger, elle tend tout simplement vers l'énergie de Fermi. Donc, on est dans une limite où gamma est petit, d'ordre T2. Donc, clairement, ce que j'ai envie de faire dans cette intégrale, c'est d'écrire epsilon égale epsilon étoile plus xt. Et quand je fais ça, ce que je trouve, si j'arrive à effacer cette ligne, c'est que finalement, tout ça se comporte de la manière suivante. Il y a ici une intégrale sur la fréquence, toujours avec mon facteur de Fermi. Maintenant, j'ai fait un changement de variable qui me fait sortir ce taux de diffusion. Et puis ici, j'ai l'intégrale sur les énergies, dxi, disons. Je vais plutôt appeler ça xi, je crois. Oui, peut-être x. Et ici, j'ai phi de epsilon étoile plus gamma xi. Fois la Lorentzienne au carré qui venait des fonctions spectrales. Alors, regardez cette expression. En fait, cette expression est simplement une fonction de gamma, et gamma devient petit. Donc, évidemment, ce qu'on a envie de faire, c'est de dire que quand gamma devient petit, le terme dominant de cette intégrale, c'est tout simplement phi de epsilon f, puisque epsilon étoile tend vers epsilon f, fois l'intégrale sur xi de ça, qui donne un coefficient numérique qui vaut 1 sur pi carré fois pi sur 2. Et que finalement, on se retrouve avec une formule qui est essentiellement une formule de Drude, ou je dirais de quasi-Drude. Donc on est passé, si vous voulez, de Kubo, ici, à essentiellement Drude, où la conductivité dc est approchée par 2 pi e carré sur h bar, en gros phi de epsilon f. Donc vous reconnaissez la limite de Mott qui apparaît, hein, fois l'intégrale des oméga, moins df sur d oméga fois 1 sur gamma. Alors, pourquoi est-ce que j'appelle ça une formule de Drude? Parce que vous voyez clairement apparaître ici quelque chose qui mesure le nombre de porteurs, qui est la fonction de transport au niveau de Fermi, fois une moyenne sur l'énergie de taux. Hein, 1 sur gamma, c'est le temps de scattering. Donc ça, c'est une sorte de moyenne de taux. Et vous pouvez vous demander quand est-ce que cette formule de quasi-Drude est correcte. Eh bien, en fait, vous pouvez vous rendre compte qu'elle est valable jusqu'à très, très haute température, pratiquement jusqu'à la limite de Mott-Ioffe-Regel. Et ça, c'est simplement dû au fait que c'est seulement l'échelle d'énergie électronique nue qui est dans phi qui contrôle la validité de cette approximation. Et c'est seulement quand gamma, le taux de scattering, va être de l'ordre de la largeur de bande que cette approximation devient fausse. Donc ceci nous montre déjà que dans tout le régime de température, jusqu'à la limite de Mott-Ioffe-Regel, on peut simplifier la formule de Kubo pour se ramener essentiellement à une expression de type Drude. En fait, j'ai été un petit peu vite, probablement à des températures intermédiaires, il faudra remettre ça à l'intérieur de l'intégrant pour tenir compte de la dépendance en oméga et t de cette quantité, mais en gros, ça c'est vrai. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans le régime liquide de Fermi? On peut aller un petit peu plus loin, remplacer ce gamma par la forme d'échelle qu'il y avait tout à l'heure ici, c'est-à-dire oméga sur delta au carré plus pi t sur delta au carré fois un certain coefficient, ici, qu'on avait établi, d'accord? Et puis faire le changement de variable oméga sur t pour intégrer l'expression. Et finalement, quand on fait tout ça, on obtient l'expression qui est ici. Je ne vous fais pas toute l'algèbre au tableau, mais je pense que vous avez compris à peu près comment ça marche. On obtient tout simplement l'expression qui est là. C'est-à-dire que on a bien sûr notre loi en T2 de la résistivité, hein, avec un préfacteur qu'on a donc établi directement en fonction de ce coefficient A qui est ici. Ce 1,22 vient du calcul de cette intégrale, tout simplement. Et vous voyez que le point important, c'est deux choses. Le premier point, c'est que le coefficient du T2 dépend du dopage comme 1 sur le dopage au carré, ou si vous voulez, 1 sur le poids des quasi-particules au carré. Hein. Donc ça nous dit qu'il y a une seule échelle qui devient petite dans le problème, qui est le dopage ou le poids des quasi-particules. La masse effective dans cette description des quasi-particules devient grande, comme 1 sur le dopage, et vous trouvez évidemment la loi de Kalawaki-Woods, disons, qui vous dit que le rapport de ce coefficient du T2, de la résistivité, au carré de la chaleur spécifique, est une constante, qui est néanmoins une constante non universelle. Il y a un article de Nigel qui explique ça très bien. C'est une quantité non universelle parce qu'elle dépend de la forme, de la fonction de transport au niveau de Fermi et de toute la fermiologie du problème. Mais la loi, c'est qu'en gros, A sur gamma 2, quand vous variez le dopage, est en gros constant. Ça, c'est le premier point. Je ne vais pas m'étendre trop sur cette question de Kalawaki-Woods. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas tellement l'objet du cours d'aujourd'hui. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que maintenant, on peut combiner cette expression à l'expression de tout à l'heure qui établissait l'énergie, l'échelle caractéristique du liquide de Fermi, et constater tout simplement que la résistivité AT Fermi liquide est, vous voyez ici, beaucoup plus petite que la limite de Mott. Concrètement, elle est de l'ordre de 1% ou 2% de la limite de Mott. Donc on a clairement établi, si je reviens aux courbes de résistivité, je ne vais pas vous les remontrer, mais on a clairement établi que quand on sort du liquide de Fermi, on est encore dans un régime où la résistivité est bien inférieure à la limite de Mott, et on entre dans un régime où la résistivité n'est plus en T2, mais bien avant d'avoir un système complètement incohérent. Alors ça, c'est quelque chose, ce genre de loi, la valeur du coefficient A qui est là, par exemple, ça ne marche pas trop mal avec un certain nombre d'expériences. Alors malheureusement, il y a en fait très peu de systèmes. Si vous regardez la littérature sur les oxydes, il y a très peu de systèmes qui sont, je dirais, des tests pour les théories de l'isolant de mode dopé en trou. Il y a en gros trois systèmes que je connais. Il y a les titanates LATIO3, qui est un isolant de mode de gap à peu près 0,2 EV, dopé en trou par le strontium, dont j'avais parlé dans un cours précédent. Donc c'est ce qui était montré ici. Il y a l'antane VO3, qui est un système D2, également isolant de Mott, dopé en trou toujours par le strontium. Mais ce système a des très fortes fluctuations antiferromagnétiques, donc en fait, les choses sont plus compliquées dans ce système-là. Et puis, il y a les cuprates. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de systèmes sur lesquels tester les considérations que je vous montre là. Mais enfin, si vous regardez les titanates, eh bien, vous voyez ici que c'est un système de Brinkman-Rice. Disons clairement, ce que vous voyez, c'est que la résistivité est en T2. On a une grande surface de Fermi, comme le montre l'effet Hall. On a un coefficient de chaleur spécifique qui devient grand quand on se rapproche de l'isolant de Mott, un rapport A sur gamma 2 qui est essentiellement constant. Et les températures caractéristiques jusqu'auxquelles on observe une loi en T2 sont de plus en plus faibles au fur et à mesure qu'on diminue le dopage, avec des valeurs qui sont en gros 100 à 150 K, donc relativement cohérent avec ce que je raconte ici. Bon, donc voilà le message principal pour ce qui est du régime de basse température. Et j'insiste sur le fait que si on veut relier cette échelle caractéristique à une échelle spectroscopique, eh bien, j'ai montré tout à l'heure sur la partie imaginaire qu'il y avait une échelle du côté trou qui était assez grande, assez proche en fait de l'échelle de Brinkman-Rice, et une échelle du côté électron qui était beaucoup plus petite. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi très bien sur la partie réelle, donc cette fois c'est la partie réelle de la self-énergie, comparée au développement linéaire oméga 1-1 sur Z. Et vous voyez très clairement que pour les dopages faibles, il y a une déviation ici entre le régime linéaire est ce que fait la self-énergie, qui apparaît à très très basse fréquence et qui va évidemment donner dans la dispersion des quasi-particules un kink, mais un kink de très basse énergie. Simplement, ce kink, c'est la dispersion des quasi-particules de type électron. C'est précisément celle qu'on ne voit pas en ARPES. En revanche, pour ces matériaux dopés en trou, eh bien, on aurait aussi un kink de très haute énergie, disons ici, vous voyez, de l'ordre peut-être de 0,2 eV, hein, qui est très bien vu par des expériences récentes sur LSCO, par exemple, LSCO surdopé, mais qui est le kink du côté trou. Alors, ceci vous incite à penser que ce qui limite le liquide de Fermi dans un isolant de mode dopé en trou, c'est l'échelle caractéristique du côté des électrons. Alors, on peut tester ça parce que vous voyez que cette formule, elle contient une intégrale sur la fréquence et je peux faire une chose que les expérimentateurs ne peuvent pas faire, c'est regarder les contributions de cette intégrale pour les oméga négatifs et pour les oméga positifs. Alors, quand on fait ça, eh bien, ce qu'on constate, c'est montré ici, ça, c'est la contribution à la formule, disons, de quasi-Drude des excitations de type trou, et ça, c'est la contribution des excitations de type électron. Et vous voyez clairement que si je n'avais que les excitations de type trou, j'aurais le liquide de Fermi jusqu'à des températures beaucoup plus élevées, alors que les excitations de type électron dévient à très basse température. Donc la morale, c'est que ce sont les excitations de type électron qui dévient rapidement de la loi de Landau. Bon, alors maintenant j'arrive à la question la plus intéressante, malheureusement presque à la fin du cours, qui est donc qu'est-ce qui se passe au-dessus de T liquide de Fermi. Donc on a vu qu'on a un régime métallique avec une résistivité bien inférieure à Motioffer-Egel, et il doit donc y avoir des porteurs de charge. Qu'est-ce que c'est que ces porteurs de charge? Est-ce qu'on les voit dans la spectroscopie? Alors la réponse à cette question est sur ces courbes, et je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que c'est que ces courbes. Donc ce qui est montré maintenant ici, c'est la fonction spectrale à une particule, mais cette fois résolue en impulsion. Ce n'est plus la densité d'état total. Ce que vous avez ici, c'est la fréquence d'excitation, donc c'est le oméga de A et de epsilon et l'oméga. Et ici, c'est le moment, si vous voulez, ou l'impulsion, mais paramétrisé par epsilon k, hein, la valeur de l'énergie dans la bande. Donc ici, on est au bord inférieur de la bande. Ici, on est au bord supérieur de la bande. Et vous voyez, ici, à très basse température, donc bien dans le régime de Landau, vous voyez quoi? Vous voyez une quasi-particule qui disperse, hein, et vous voyez que très près du niveau de Fermi, donc pour les oméga très petits, ici, cette quasi-particule est très 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 étroite, c'est ce pic violet ici par exemple, et vous voyez que cette quasi-particule est très étroite, c'est la loi de Landau, c'est la loi en T2, ou en oméga 2. Donc ici, vous avez une quasi-particule de Landau. Du côté oméga négatif, vous n'avez pas grand-chose. En revanche, ce que vous avez très clairement, c'est que quand vous vous éloignez du niveau de oméga égale 0, donc quand vous regardez les excitations de type électron, eh bien, vous avez toujours un pic de quasi-particules, donc c'est la bande qui disperse au-dessus du niveau de Fermi, mais que ce pic s'élargit rapidement, hein, quand je vais à oméga positif. Et maintenant, ce qui est fascinant, c'est que quand vous chauffez le système, donc ici, ça, c'est loin dans le régime liquide de Fermi, ça, c'est dans le régime que j'appellerais le régime de Drude, où on n'est plus dans le régime liquide de Fermi, mais on est quand même bien en dessous de la limite de Joffre-Egel-Mott. Et vous voyez que ce qui s'est passé dans ce régime, c'est que les quasi-particules de Landau, ces pics très fins ici, ont disparu. Hein, donc les quasi-particules de Landau ont une durée de vie très très grande, mais elles sont aussi très fragiles. Elles sont très facilement détruites thermiquement. C'est ça le message. Et ce qui subsiste néanmoins, ce sont des excitations qui sont bien distinctes de la bande de Hubbard inférieure, ça n'a rien à voir avec la bande de Hubbard. Ce sont des porteurs de charge qui correspondent à des excitations de type électron qui ont une largeur typique, donc qui est gamma, qui est beaucoup plus grande que kT, donc en ce sens vous pouvez peut-être vouloir les appeler incohérents, mais bien plus petite que la largeur de bande. Donc ce sont des porteurs qui, ce sont des excitations de quasi-particules qui sont parfaitement bien définies, en ce sens où si quelqu'un fait une manip d'ARPES, il va voir clairement une bande de Hubbard inférieure et des excitations de type quasi-particules qui dispersent au-dessus du niveau de Fermi. Et ce sont ces excitations-là qui sont responsables du transport électronique dans ce régime. Donc on a identifié des excitations qui ne sont plus les quasi-particules de Landau, mais qui néanmoins se manifestent par un pic bien défini dans la fonction spectrale et qui sont responsables du fait que la résistivité continue à avoir un comportement métallique dans ce système. Et c'est seulement quand vous chauffez le système à des températures considérables que vous commencez à détruire ces quasi-particules de Drude, donc j'aurais envie de les appeler quasi-particules de Drude, si vous voulez, et que vous retrouvez une fonction spectrale qui n'a plus qu'une bande de Hubbard inférieure, et évidemment aussi une bande de Hubbard supérieure, qui n'est pas montrée sur ces dessins, hein. Donc une structure de 3 pics à une structure à 2 pics, quand vous chauffez le système et que vous commencez à vous approcher à des températures très élevées de la limite de Yoffer et Goldmott. Alors, pour vous faire comprendre un tout petit peu plus ce que sont ces quasi-particules de Drude, on va regarder si elles contribuent ou non au transport. Donc, ce qui a été représenté ici, c'est pour les 4 températures caractéristiques que j'ai décrites. Ce qui est représenté ici, c'est la fenêtre oméga égale 5KT. Hein, c'est-à-dire, on a vu, d'après cette formule, c'est la fenêtre qui contribue au transport dans ce système. Alors, vous voyez qu'à basse température, cette fenêtre, elle est quasiment invisible sur ce dessin, c'est juste cette toute petite fenêtre ici, et clairement, à basse température, les seules quasi-particules qui contribuent au transport sont les quasi-particules qui ont un temps de vie à la Landau, en T2. C'est pour ça qu'on a une résistivité en T2. Mais quand vous commencez à chauffer le système, et donc vous voyez ça, ça serait 500 Kelvin peut-être, quelque chose comme ça, eh bien vous avez une fenêtre oméga égale 5KT qui est beaucoup plus grande, qui évidemment ne s'étend pas jusqu'à la largeur de bande, hein, on parle d'échelles d'énergie qui sont peut-être 20% de la largeur de bande, et toutes ces quasi-particules ici contribuent à cette formule. Elles doivent être prises en compte, puisqu'ici on a une intégrale sur l'énergie, sur une fenêtre relativement grande. Donc dans ce régime de transport, ce ne sont pas les quasi-particules qui sont juste à énergie nulle qui contribuent, celles-là ont été détruites par effet thermique, parce qu'elles avaient une très petite largeur, ce sont ces quasi-particules de Drude qui sont à énergie positive qui contribuent au transport. Et puis finalement, quand vous commencez à vous approcher de la limite de Yoffer et Goldmott, eh bien, ces quasi-particules de Drude disparaissent et vous vous retrouvez à très haute température, pour ce modèle à une bande, dans un régime de température délirant, disons, dans un régime où, qui a déjà été analysé dans les littératures précédemment, dans un régime où on a en fait une sorte de modèle de bande rigide, où le potentiel chimique est au sommet de la bande de Hubbard inférieure, et toute la dépendance en température est contrôlée par la dépendance en température du potentiel chimique. Mais ça, c'est seulement quelque chose qui se passe au-dessus de la limite de Mott-Yoffer-Hegel. Bon, alors, en fait, tout ça, vous le voyez déjà dans la densité d'état total. Vous voyez très bien ici qu'à très basse température, on avait cette densité d'état des quasi-particules qui, en fait, a deux composantes, une composante très fine qui correspond aux quasi-particules de Landau, et puis ici un pied qui correspond à toutes ces excitations-là, et que quand vous chauffez, eh bien, vous détruisez ces quasi-particules de Landau, mais vous conservez des quasi-particules de plus courte durée de vie, mais qui forment un pic bien individualisé. On peut regarder également la manière dont le temps de scattering dépend de la température. Et pourquoi, finalement, ces quasi-particules donnent un pic bien identifié dans la fonction spectrale. Alors la réponse à cette question est ici. Si vous regardez, donc ça c'est partie imaginaire de sigma en fonction de la fréquence, ici à très basse température, ici dans un régime de température intermédiaire, donc dans ce régime métallique de Drude. Alors vous voyez que ce qui s'est passé, c'est que ici on avait cette loi en oméga 2, c'est là qu'est Landau, d'accord ? Et quand je suis passé ici, eh bien toute cette loi en oméga 2 a été supprimée, hein, donc le temps, le scattering rate des quasi-particules de Landau a considérablement augmenté, vous voyez ici on est passé de 0 essentiellement à 0,2 ou 0,3, hein. Mais vous avez un large domaine de fréquence positive où le temps de diffusion, ici, a atteint une valeur qui est, dans les unités de la demi-largeur de bande, de l'ordre de 0,2, 0,3, 0,1, donc quelque chose qui est plus grand que KT, mais beaucoup plus petit que la largeur de bande. Et donc c'est pour ça que ces quasi-particules de Drude forment un pic bien identifié dans la fonction spectrale, qui a une dispersion. Et je pense profondément que c'est ça la vraie signification de l'échelle de Brinkman-Rice. L'échelle de Brinkman-Rice, elle n'a absolument rien à voir avec la cohérence du liquide de Fermi, hein, elle vous donne plutôt une estimation de l'échelle supérieure à laquelle il faut aller pour vraiment casser les quasi-particules de Drude. Alors, ces observations-là, elles ont un certain nombre de conséquences. La première conséquence, c'est que si vous faites une mesure de spectroscopie optique ou ARPES, dans un régime où la résistivité n'est pas en T2, mais est plus petite que la limite de Moatiofer égale, eh bien vous devriez voir quelque part des quasi-particules bien identifiées. C'est une conséquence de ces résultats théoriques. Alors ça remet assez en cause certaines observations qui ont été faites, qui ont tenté de corréler l'ARPES et le transport. J'avais mentionné dans un cours précédent que si vous regardez les rutanates, eh bien, il y a des expériences de photoémission qui disent que les quasi-particules semblaient fondre, vous voyez ça, c'est les quasi-particules à ce point-là, semblaient disparaître autour de 180 Kelvin à l'échelle où la résistivité selon l'axe C est un maximum, dont j'ai parlé un peu dans un cours précédent. Eh bien, en réalité, ça, je crois que ça mériterait d'être reconsidéré et d'aller regarder, d'une part, ailleurs sur la surface de Fermi, il s'agit juste ici de quelques points, mais également d'aller sonder les excitations à oméga positif, ce qui est malheureusement pas possible de faire en ARPES, mais je suis persuadé que dans ce système, il reste un pic de quasi-particules bien identifié jusqu'à des températures beaucoup plus élevées, qui sont les températures où la résistivité dans les plans commence à atteindre la limite de Moatiofer-Engel. Donc cette question de la relation entre signaux spectroscopiques et limite de transport non liquide de Fermi, et à mon avis, est à reconsidérer dans cette perspective-là. Donc finalement, quelle est l'échelle d'énergie à laquelle on atteint la limite de Moatiofer égale? Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder aussi dans les calculs que je vous ai montrés, et c'est ce qui est dessiné ici. Eh bien, vous voyez que ça, c'est effectivement une échelle d'énergie qui est grande, qui dépend aussi linéairement dans le dopage, tout dépend... Toutes les échelles de ce problème dépendent linéairement du dopage. Et vous voyez que c'est beaucoup plus compatible avec la valeur de Brinkman-Rice. Hein? Donc, en gros, c'est delta D, pour faire simple, à des facteurs de près, qui est l'échelle à laquelle vous atteignez la limite de Moatiofer-Engel. Et c'est tout à fait naturel dans la mesure où delta D, c'est réellement une échelle d'énergie. C'est l'énergie cinétique des quasi-particules, renormalisée par les corrélations. Et c'est tout à fait logique de penser que c'est quand la température est plus grande que cette échelle qu'on obtient un système complètement incohérent. Quand on est en dessous de cette échelle, on a un transport métallique, on a encore des quasi-particules, simplement, ce sont plus, elles n'obéissent plus à la loi de Landau. Bon, alors, cette signature de Moatiofer-Engel, vous pouvez la voir également en optique, et ça se recoupe également à un article de Nigel UC. Sur ce sujet il y a quelques années. Donc ça, c'est des calculs de la conductivité optique, toujours dans cette théorie simple, qui cherche à répondre à la question, qu'est-ce qui se passe quand on va maintenant à très haute température? Est-ce qu'on voit un signal de du passage de Moatiofer-Engel en optique? Alors la réponse à cette question est, cette fois, oui. On voit effectivement quelque chose. Alors, l'optique, c'est quelque chose qui fait intervenir des nombres énormes, parce que la conductivité à DC est gigantesque par rapport à la conductivité à fréquence finie, donc c'est extrêmement dur à représenter sur un seul graphe. Donc ici, ce n'est pas idéal, mais enfin bon, ici est représenté quelque chose sur une échelle linéaire pour sigma et une échelle linéaire pour oméga. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est la conductivité optique dans le régime liquide de Fermi, mais il faut vous imaginer que ce pic noir, en fait, monte jusqu'au plafond. Hein, il est très, très haut. C'est le pic de Drude. Et vous voyez ici un espèce d'épaulement qui correspond aux transitions entre le haut de la bande de Hubbard inférieure et toutes ces quasi-particules à énergie positive. Vous voyez qu'ici, ces deux caractéristiques spectrales sont bien distinctes. Donc ici, il y a un pic de Drude très fin et puis il y a un signal dans l'infrarouge moyen. D'accord ? Quand on commence à chauffer le système au-dessus de T liquide de Fermi, ces deux caractéristiques spectrales se mélangent. on continue à avoir un pic de Drude bien défini, mais il n'a plus la forme standard. Il est élargi, hein, et il correspond aux transitions entre la bande de Hubbard inférieure et ces excitations dont je parlais, ces excitations de type électron. Et puis c'est finalement quand on atteint la limite de Motioff-Regel que tout ça se casse la figure et on retrouve un truc plus ou moins plat. Et vous voyez en particulier, on perd, quand on passe la limite de Motioff-Regel, on perd le point où ces courbes se croisent toutes à peu près à la même énergie. Donc il y a un signal en optique de ce franchissement de la limite de Motioff-Regel qu'on ne voit pas vraiment en résistivité. Donc d'une certaine manière, on peut dire que Joffe-Regel-Mott limit equal changes in the mid-infrared range. Et si vous mettez les choses dans l'ordre, Mott, Joffe-Regel, ça fait la même chose. Bon, voilà. Donc je vais en gros m'arrêter là. Peut-être la fois prochaine, avant de parler un peu du pouvoir thermoélectrique, je parlerai du régime de très haute température, du régime incohérent de très haute température où on peut aussi faire un développement asymptotique et montrer que la résistivité est linéaire en T dans ce régime. Et vous voyez que cette linéarité en T, elle s'étend aussi en dessous de la limite de Motioff-Regel. Il ne se passe pratiquement rien quand vous la franchissez, donc il est possible que ce développement haute température soit aussi valable quand on descend dans le régime de Drude au-dessus du régime liquide de Fermi. Voilà, mais disons, le message principal de ce cours, pour résumer les choses, c'est que, un, l'échelle de cohérence du liquide de Fermi est très petite, ça c'est le premier message. La résistivité à T liquide de Fermi est beaucoup plus petite que la limite de Drude. Et il existe une description à la Drude du transport dans un vaste gamme de températures entre T liquide de Fermi et T Motioff-Regel, qui est due à l'existence de quasi-particules bien définies au sens où, quand je regarde une fonction spectrale, je vois un pic, d'accord, mais avec une largeur qui est beaucoup plus grande que KT. Voilà, je vous remercie.